Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Bonjour à tous, nous voici pour notre émission mensuelle avec Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Donc Monseigneur, nous sommes avec vous pour quelques temps sur Radio La Pourdie et sur Radio Présence. À noter que cette émission est enregistrée le 3 mars. Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Donc avec vous, nous allons faire un petit peu le panorama de l'actualité. On va commencer avec l'actualité dans l'Église universelle, bien sûr, puisque pour nous chrétiens, c'est la persécution des chrétiens en Orient. C'est vrai que c'est de pire en pire. 21 chrétiens égyptiens ont encore été exécutés récemment en Libye. Plus de 350 chrétiens assyriens enlevés en Syrie. Quelle parole est-ce que vous avez à donner pour cette situation? Comment est-ce qu'on peut aussi ne pas céder à un sentiment de revanche, voire de haine envers ces personnes qui font cela, qui essayent d'éradiquer les chrétiens de cette région?
Évidemment que ce n'est pas un sentiment de vengeance ni de haine qui pourrait m'animer face à ces exactions des islamistes contre les chrétiens, qui en effet se multiplient actuellement en Irak toujours, en Syrie de plus en plus, en Égypte même, enfin c'est en Libye que ça s'est passé, mais contre des chrétiens égyptiens, des coptes. Mais c'est quand même un sentiment quand même de déception par rapport à la communauté internationale qui ne semble pas prendre la mesure politique des événements et qui s'enferme dans une politique qui demeure tout de même très ambiguë. C'est vrai que la coalition internationale pilonne les avancées de Daesh en Irak, en particulier dans le nord de l'Irak après la prise de Mossoul et des villes de la plaine de Ninive. Mais ce que l'on fait contre Daesh en Irak, on le favorise en Syrie, en étant obstinément opposé à Bachar al-Assad, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de ce régime fort en Syrie, comme celui d'Irak avec Saddam Hussein, comme celui de Kadhafi en Libye. Force est de constater que chaque fois qu'on est intervenu pour combattre ce qu'on appelle les ennemis de la démocratie, comme si ce mot d'ailleurs avait la même résonance dans les pays à majorité musulmane, a conduit à un chaos terrible dont les populations civiles, dont les minorités religieuses, et en particulier, très particulièrement les chrétiens, payent très cher la note, comme on le voit en Libye, comme on le voit et nous sommes en Libye aux portes de l'Europe, comme on le voit en Irak aujourd'hui et en Syrie. Voilà. Nous continuons de faire le jeu de Daesh en Syrie, alors qu'on prétend s'opposer à eux en Irak. Vous avez vu, j'allais dire, la pantomime politique en France, après la visite tout à fait régulière de 4 parlementaires français en Syrie, qui ne faisaient que rendre l'appareil aux parlementaires syriens qui avaient été reçus à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, par le vice-président actuel de l'Assemblée nationale, dans le souci de trouver une solution diplomatique et donc politique à la crise. Bachar el-Assad est-il plus un boucher que le roi d'Arabie saoudite ou que le président de Turquie, à qui on continue de rendre les honneurs et dont on sait pertinemment qu'ils font la promotion de Daesh en négociant économiquement avec eux? Je pense à la Turquie par rapport à Daesh contre les Kurdes. Donc, vous voyez, on est dans le surréalisme complet, on est dans la confusion totale, et pendant ce temps-là, les chrétiens payent effectivement les frais de toutes ces maniganceries politiques qui servent quels intérêts? On finit par ne plus savoir très bien. Non, je pense en effet qu'il y a danger pour les chrétiens. Je suis en contact régulier depuis mon passage en Irak fin octobre avec le consul de France à Erbil, qui me dit que si actuellement la menace d'une invasion d'Erbil par Daesh est repoussée, il reste que les chrétiens sont parfaitement découragés, de plus en plus désespérés, car ils ne voient aucune solution politique poindre. Les visas sont donnés absolument au compte-gouttes. Ces populations sont exsangues, n'ont plus aucune ressource, sauf celle des organisations caritatives ou des ONG qui continuent d'œuvrer à leur service. Mais ils voient bien qu'ils sont abandonnés par l'Occident. Et ça, je crois que c'est ça le plus grand scandale.
À Pau, une association a été créée pour soutenir les Chaldéens, puisqu'on a des familles présentes à Pau. Est-ce que vous encouragez les diocésains à s'intéresser à cette association?
Bien sûr. Comme vous le savez, on avait déjà lancé un parrainage spirituel. Et dans ce sillage, le premier fruit, c'est en effet la création de cette association d'aide aux chrétiens d'Orient 64, en lien aussi avec Habitat Humanisme, qui sont venus me voir, et j'encourage leur démarche. J'ai d'ailleurs appelé les curés de l'agglomération paloise à leur faire bon accueil, pour qu'ils puissent proposer, dans le cadre d'une démarche solidaire, à tous les fidèles qui le pourront et le voudront, de mettre des appartements à disposition de ces familles qui, quand même si c'est au compte-gouttes, arrivent actuellement sur l'agglomération paloise. Il y a 7 familles qui, depuis le mois de novembre, ont pu obtenir un visa et ont rejoint la communauté chaldéenne de Pau, 2 familles qui devraient arriver aussi sur la côte basque. Et donc il faut tout faire pour les aider, car ils n'auront aucun moyen. Ils seront reçus quelques jours dans les maisons des familles chaldéennes de Pau, mais c'est sûr que des appartements ou des maisons qui sont faites pour 5 ou 6 personnes, qui vont être envahies par 12 personnes, ça deviendra vite insalubre. Donc il faut trouver des appartements à bas loyer dans une démarche solidaire, et il faut aussi que cette association puisse collecter des fonds afin d'assurer les loyers, les recherches de travail, les produits de première nécessité.
Changeons de sujet, Monseigneur, nous allons parler de l'Église catholique aujourd'hui. Il y a 2 ans, c'était le départ du pape Benoît XVI et l'élection du pape François. Vous, comment vous voyez l'Église catholique aujourd'hui? Est-ce qu'elle est dans la bonne direction?
Alors, je pense, comme nous le savons, depuis le départ de Benoît XVI, qui était lié, comme on le sait, aux nécessaires réformes de la curie, que lui-même avait cherché à entreprendre et pour lesquels il ne se sentait plus la force d'accomplir une telle charge. Nous sommes dans un temps de transition. Une annonce de la réforme de la curie, pour laquelle le pape travaille activement avec son fameux groupe de cardinaux. Il a aussi consulté, évidemment, les préfets des congrégations de la curie et des dicastères. Il a aussi, en consistoire dernièrement, où il a créé de nouveaux cardinaux, interrogé tous les cardinaux, consulté tous les cardinaux, tout le collège cardinalis, sur cette réforme qui devrait voir le jour dans les mois, peut-être même les années qui viennent, car c'est une grande affaire. Moi, je vois qu'en effet, l'Église continue dans une grande continuité avec un charisme différent que celui du pape François, que celui du pape Benoît, hein. Mais je me garderai bien d'opposer un pontificat à l'autre, comme certains s'agitent à le faire, de manière un peu puérile ou parfois malheureusement idéologique. Et c'est sûr que ça bouscule. On a un pape qui bouscule, et je crois que c'est tant mieux. On a besoin de se laisser un peu bousculer, hein, dans notre Église, pour nous inviter à une réforme beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde que la réforme extérieure que certains attendent, qui est la réforme intérieure, qui est la conversion. Hein, je crois que les papes ne cessent de nous appeler à la conversion. Ce pape, avec son style très particulier, de jésuite, j'allais dire maître S exercice spirituel, qu'il nous fait faire très volontiers dans ses homélies, dans ses discours, dans ses gestes prophétiques même. Donc je m'en réjouis, et je me réjouis très particulièrement aussi que, emboîtant le pas de ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, il nous appelle vraiment toujours plus à une Église en sortie missionnaire, une Église en état de mission permanente, une Église qui n'ait pas peur d'annoncer vraiment l'Évangile, le cœur de l'Évangile aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui.
Alors vous le dites, Monseigneur, c'est un pape qui bouscule, le pape François, notamment sur le synode sur la famille. Il y a quand même eu des débats au sein des évêques, et puis on pense au cardinal Raymond Burke, qui est venu ici dans notre diocèse pour le colloque international sur la vie, qui s'est opposé dans la presse au pape. Il a quand même dit que le pape avait fait du mal en ne donnant pas ouvertement sa position sur notamment les divorcés remariés.
Alors, il a peut-être été, par une formule comme celle-là, piégé par la presse, hein, car je ne crois pas que le cardinal Burke soit un opposant au pape, contrairement à ce que l'on dit. Comme vous le savez, le transfert de la signature apostolique à l'ordre de Malte a bien largement précédé le synode, puisque c'est le 9 septembre que cette décision avait été prise.
Mais parce qu'on aurait pu croire qu'il avait été évincé.
Pas du tout. Et d'ailleurs, il reste membre du Collège Cardinalis. Il est même d'ailleurs le représentant du pape auprès de l'Ordre de Malte. Donc c'est forcément un lien de confiance avec le Saint-Père. Il ne s'est jamais opposé publiquement au pape. Sans doute que la presse cherche à créer comme d'habitude des oppositions, et c'est bien normal qu'il y ait des débats. Le pape d'ailleurs a demandé lui-même à ce que les cardinaux lui disent les choses de manière tout à fait claire et explicite. C'est pas parce que sur un point un cardinal peut dire quelque chose d'ailleurs qu'il lui aura dit dans une rencontre personnelle, que la presse va utiliser, peut-être parfois isolée du reste, pour en faire une affaire d'État, qu'il y a de véritables oppositions. Qu'il y ait des débats et des controverses dans l'Église, c'est pas nouveau. Le Concile Vatican II a été, quand on regarde bien l'histoire, un lieu de controverses extrêmement difficile et âpre, mais qui a conduit peu à peu, sous l'assistance de l'Esprit-Saint, à une grande unanimité, et je ne doute pas un instant que le synode sur la famille conduira aussi à, pas un consensus de compromis, mais à une véritable unanimité qui vient de la communion profonde, affective et effective avec le successeur de Pierre. Et je ne doute pas que le cardinal Burke soit profondément dans cet état d'esprit.
Dans la revue diocésaine du mois de mars, dans votre éditorial, si j'ose dire, vous enfoncez le clou suite à votre lettre publiée le 18 décembre au diocésain. Là, vous revenez quand même sur les oppositions qu'il y a pu avoir dans notre diocèse, dans la vie ecclésiale, et vous demandez un effort de carême pour plus de communion.
Oui, je suis revenu sur ce fameux discours du pape François à la Curie romaine, le 22 décembre 2014, qu'il a présenté un peu comme une sorte d'examen de conscience pour nous tous, d'ailleurs dans lequel il s'est englobé. Et je me souviens de fait que cet examen de conscience proposé comme un bon jésuite qui fait le catalogue un petit peu des tentations et des maladies qui peuvent affecter le corps mystique de l'Église, dont la curie et dont toute curie et toute association et tout groupement dans l'Église, comme il le précisera à la fin de ce discours, est un peu une représentation typique, eh bien le contexte était celui de la préparation à la fête de Noël et donc d'un effort de conversion en vue d'une confession de Noël même, vous voyez. Donc c'était tout à fait ciblé, et là encore on voit bien le prédicateur de retraite, exercice spirituel qui est à l'œuvre. Il a proposé ça à ses collaborateurs, s'englobant d'ailleurs dans cet examen de conscience, en disant que c'était valable pour tout chrétien. Et je me dis que dans cette démarche de conversion qui est toujours pour nous le carême, il peut être bon de revenir à cet examen de conscience qui nous a été proposé. J'ai relevé deux tentations et deux maladies dont j'avais effectivement parlé, car je crois qu'elles sont très présentes dans notre communauté ecclésiale, mais il y en a beaucoup d'autres, et d'ailleurs je médite pour moi-même les tentations et les maladies qui sont proposées par le Saint-Père dans ce discours.
Donc on invite les auditeurs à lire cet éditorial dans la revue diocésaine Notre Église et qui se trouve également sur le site internet de notre diocèse. Monseigneur Marc Caillé, nous enregistrons cette émission le 3 mars. Dimanche dernier, dimanche 1er mars, c'était la fête de Saint-Léon à Bayonne et vous aviez un invité.
Oui, comme chaque année, nous essayons de marquer l'événement de la fête de Saint-Léon qui a lieu traditionnellement le premier dimanche de mars. Et il se trouve que ce premier dimanche de mars était le jour même de la fête de Saint-Léon. Évêque et martyr, fondateur au IXe siècle du diocèse de Bayonne, même si on sait que ce Pays basque était déjà évangélisé auparavant, et en particulier on connaît saint Amand au VIe siècle comme un grand apôtre de notre Pays basque. Et comme chaque année, j'invite en effet un prélat pour rehausser un peu la célébration de cette fête. Bon, après le cardinal Ricard, après le cardinal Sarah, Monsieur Castel, l'an dernier, le nonce apostolique en France, Monsieur Luigi Ventura. J'avais invité l'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est de ma génération, nous avons été nommés évêques à peu près ensemble, en même temps, et qui est aussi le président de la commission doctrinale de la conférence des évêques de France. Voilà. Et donc j'avais proposé de venir présider cette fête, ce qu'il a fait extrêmement aimablement. Comme je lui ai dit, je le remerciais d'avoir consenti à quitter la capitale pour les périphéries de notre Pays basque.
C'est une manière de dire aussi que Saint-Léon a une portée nationale, voire universelle.
Je n'irai pas jusque-là, même si c'est vrai que Saint-Léon est originaire de Normandie, puisqu'il était évêque de Rouen, et qu'il a demandé d'être déposé de sa charge par le pape, pour pouvoir venir évangéliser les Vikings qui venaient de sa région nordique, qui embêtaient les Basques. Donc il a voulu venir les évangéliser. Donc c'est magnifique, hein. Et il en a payé le prix puisque les Vikings l'ont décapité. Vous voyez, la décapitation est vieille comme le monde. On croyait que c'était terminé, mais enfin ça continue aujourd'hui. Voilà. Donc et d'ailleurs je note qu'en même temps que M. Moulin Beaufort venait présider ici la Saint-Léon, à 40 ans en Normandie, qui est son lieu de naissance, le lieu de naissance de Saint-Léon, Monseigneur Moller était invité pour célébrer aussi la fête de Saint-Léon. Donc, vous voyez, nous étions presque en duplex.
Alors un autre événement de notre vie diocésaine, ce sont bien sûr les visites pastorales que vous continuez chaque mois. Vous en avez effectué deux en une, si je puis dire, récemment, donc du 11 au 14 février. C'était Saint-Pierre d'Amicoussé et Saint-François-Xavier d'Aurègue.
Alors Saint-Pierre d'Amicoussé d'Homezin et Saint-François-Xavier d'Aurègue, qui sont autour donc de Saint-Palais, dans ce doyenné de l'Amicoussé, qui sont en effet des petites paroisses du point de vue de la population, puisque chaque paroisse compte 2000 habitants. Et comme je disais aux paroissiens, un petit peu inquiets d'ailleurs de l'avenir évidemment clérical de leur paroisse, un prêtre, un curé pour 2000 habitants, ça devient du luxe. Même dans notre diocèse, alors quand il s'agit des autres diocèses, n'en parlons pas. Mais j'étais très heureux, encore une fois, de faire ces découvertes de paroisses qui peuvent avoir aussi des difficultés. Hein. D'Homezin, il ne faut pas oublier que ce nom résonne, parce que c'est le fief de la fraternité Saint-Pidis dans notre Pays basque.
Est-ce que vous avez pu les rencontrer,
non,
du coup ?
Non, bien sûr, pas dans le cadre de la vie pastorale, bien entendu, hein, qui détiennent ici une école et un collège, qui appartenaient autrefois à la paroisse, puisque c'est le fameux abbé Goyenech, curé de vénérée mémoire, qui avait monté cette école et ce collège. Ils sont passés entre les mains de Frère Saint-Pidis, alors que les paroissiens sont un peu frustrés de leurs biens, puisqu'ils avaient quand même donné beaucoup d'argent à l'occasion des kermesses et autres, pour cette école quasi-paroissiale. C'est vrai que c'est une difficulté pour la paroisse, et j'avais besoin, moi, de vérifier ou d'apprécier l'existence d'une vraie communauté paroissiale à Saint-Pierre d'Amicoussé, face à cette fratrie Saint-Pidis qui vit entre soi et qui peut paraître comme une menace pour une communauté paroissiale. Parce qu'en plus, les relations ne sont pas forcément au beau fixe. Sans doute les enfants qui fréquentent cette école, à peu près une soixantaine aujourd'hui, un peu beaucoup moins qu'il y a quelques années, ne sont pas du tout des villages. Ce sont des familles extérieures qui viennent s'installer pour bénéficier de cette école. Les élus, d'ailleurs, d'une certaine manière, ne sont pas mécontents de voir ces familles avec des jeunes enfants arriver sur leur territoire. Mais on voit bien que c'est complètement hermétique et les relations sont parfaitement étanches. J'ai reçu, pour ma part, à leur demande, les prêtres de cette fraternité, qui m'ont invité à venir les rencontrer, mais je ne les ai jamais visités pour l'instant. C'est évidemment pas dans le cadre de la visite pastorale où je venais visiter une communauté paroissiale que je me serais livré à cet exercice. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que si j'allais les visiter, ce serait en présence du curé de la paroisse.
Mais pour l'instant, vous ne voyez pas de liens qui peuvent se faire.
C'est très difficile
sur le terrain.
Très difficile parce que on sent bien qu'il y a quand même une certaine distance qui est mise par les positions de ce prieuré de la fraternité Saint-Pidis, qui est quand même très méfiant par rapport au Saint-Siège, par rapport à l'évêque que je suis, par rapport à l'Église. L'Église en pleine communion avec le siège apostolique. Donc c'est quand même très difficile qu'il y ait des relations. Mais je vois qu'il y a une paroisse où il y a une certaine vitalité, où il y a quand même 90 enfants au catéchisme. Donc c'est pas rien. Hein. 90 enfants au catéchisme, c'est plus que le nombre d'enfants qui fréquentent l'école et le collège de Homezin. Et donc il y a un vrai potentiel. Et moi j'ai encouragé cette communauté à, en effet, bien s'enraciner dans l'essentiel, ne pas avoir peur d'avoir une visibilité missionnaire.
Vous avez parlé d'un pôle missionnaire, je crois.
Alors, je dirais qu'en effet, avec les paroissiens et les prêtres, en envisageant l'avenir à plus ou moins court ou moyen terme, car pour l'instant rien n'est décidé, puis c'est pour ça que c'est important d'entendre les prêtres, d'entendre les fidèles, pour savoir comment on peut envisager l'avenir des communautés. On peut pas le faire nous à notre niveau sans avoir vu la réalité. Hein. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion après les visites de ces deux paroisses. Je pense à Saint-François-Xavier Aurègue où le curé Jean-Baptiste Mounot m'a fait visiter les familles, les malades, rencontrer les enfants du catéchisme, avec même des enfants de 4e, 3e seconde qu'il a fait revenir pour rencontrer l'évêque. Enfin, c'était, je me suis régalé hein, dans les deux paroisses, mais très particulièrement aussi dans la paroisse d'Aurègue avant de les quitter là. Et les réflexions que je me suis faites et que j'ai partagées avec le conseil pastoral des deux côtés, c'est on sera obligé d'aller, non seulement parce que le nombre de prêtres va quand même diminuer, même si nous avons quelques cartouches, hein, je dirais en plus, pour l'avenir, mais on sera obligé d'envisager la présence de l'Église sur le terrain d'une manière résolument différente que celle d'un temps de chrétienté où on avait besoin de quadriller et de tenir des positions. On n'est plus dans un temps où on doit quadriller le terrain et tenir des positions. C'était bon pour un temps où tout le monde était chrétien, tout le monde allait à la messe, où les repères sociaux étaient ceux de la vie de l'Église, si vous voulez. Même si ça pouvait rester sociologique, traditionnel, comme on dira, tout ce qu'on veut dire là-dessus, n'empêche que... Non, aujourd'hui, nous sommes dans une... Il faut absolument que nous entrions dans une posture résolument missionnaire. Ça veut dire qu'un pôle missionnaire, c'est pour moi une petite équipe fraternelle de prêtres, avec des laïcs associés à la charge, à l'exercice de leur charge, avec peut-être une communauté religieuse ou une communauté nouvelle en renfort, résidente sur le pôle missionnaire ou non, qui suggérera à cette équipe de prêtres de mettre la paroisse en état de mission permanente. Ces missions paroissiales que nous faisons de manière un peu sporadique aujourd'hui dans les paroisses,
avec
Palavra Viva par exemple, ou avec les dominicaines de Pau, eh bien, il faudra que ce soit les prêtres qui, avec leurs fidèles, organisent dans le territoire de leur pôle des missions régulièrement, voyez, pour aller vers, sortir, hein, être en sortie missionnaire et aller vers les périphéries.
C'était votre quelième visite pastorale?
55e paroisse visitée.
Sur 69.
Voilà, donc j'avance, j'en ai encore quand même 14, hein, donc il me faudra encore 2015 et 2016 pour terminer.
Monseigneur Hayé, le 14 mars, ça sera la journée des confirmants. Alors ça devient petit à petit une tradition. Et je crois que là, il y a un chiffre record, il y a 900 inscrits.
Oui, non, ça c'est dire que ça répond vraiment à une attente. Et puis j'en profite pour saluer le dynamisme du service diocésain de la catéchèse, et en particulier de sa jeune responsable, hein, Claire Deloine, avec toute son équipe quand même, hein, bien entendu, et tous les catéchistes qui se sont mobilisés par cette petite équipe. Donc je vois le fruit quand même du travail de terrain qui est accompli par ce service diocésain de la catéchèse, qui est vraiment au service des catéchistes et donc des paroisses, et je vois qu'il y a une espèce de montée en puissance. 500 la première année, quand c'était tout nouveau, 700 la deuxième année, quand ça devenait une tradition, et 930, je crois, cette troisième année, où finalement on a toujours fait comme ça.
Il va falloir tenir tous ces jeunes, alors.
Il va falloir tenir tous ces jeunes, mais je crois qu'il y a une belle organisation mise en place, des groupes, des ateliers, les catéchistes, les animateurs qui les accompagnent, etc. Non, je ne me fais pas trop de soucis.
Alors, en parlant de confirmants, on peut aussi parler des confirmants adultes, puisque en ce temps pascal, certains vont être confirmés. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la différence entre les confirmants adultes, les catéchumènes qui vont être confirmés aussi? Parfois, il y a une confusion, puisqu'ils font partie du service du catéchuménat. Il y a eu les appels décisifs récemment, dernière étape avant le baptême. Donc, comment ça se passe entre les catéchumènes et les confirmants?
Alors, il faut bien distinguer, en effet, entre les catéchumènes, après en parler, qui sont donc ceux qui frappent à la porte de l'Église pour demander les sacrements de l'initiation chrétienne, qui souvent ont grandi dans un monde plutôt indifférent, voire hostile à la foi chrétienne ou à l'Église catholique.
Ils sont combien cette année?
Alors, ils sont une vingtaine pour l'ensemble du diocèse, un petit peu plus de 20, donc qui sont catéchumènes dans le sens où ils demandent le baptême, et donc à la clé, les trois sacrements d'initiation chrétienne, qui se donnent normalement à l'âge adulte au cours de la même vigile pascale, donc le baptême, la confirmation, et la première communion, hein, et l'Eucharistie.
Tout ça au bout de 2 ans de parcours?
Au bout d'au moins 2 ans, à peu près 2 ans de parcours catéchuménal, généralement dans les paroisses ou dans les aumôneries, car il s'agit aussi de jeunes étudiants, en lien avec leur curé et une équipe d'accompagnateurs locaux. Mais en lien évidemment avec le service diocésain qui organise un nombre de rencontres, et qui assure le suivi des animateurs et qui évalue un peu la qualité de cet accompagnement du catéchuménat. Donc là aussi, je suis heureux de saluer le travail remarquable qui est accompli par les couples de laïcs qui dirigent ce service diocésain du catéchuménat, tant au Béarn qu'au Pays Basque, avec deux prêtres accompagnateurs tout à fait méritants, l'abbé Biasperé dans le Béarn et l'abbé Beniata Mestoy pour le Pays Basque, et qui présente, qui organise des rencontres. Alors, pour les catéchumènes adultes, nous avons eu une journée de récollection à Belloc, au cours de laquelle j'ai pu rencontrer un à un les catéchumènes, qui m'avaient d'ailleurs adressé leur demande par écrit, et puis l'appel décisif, où ils passent du statut de catéchumène au statut d'appelé ou d'élu. Ils font partie des élus. Ils rentrent dans l'arche de Noé pour pendant tout ce temps des 40 jours du désert, du carême, mais qui est aussi l'image du déluge, vont pouvoir se préparer ultimement au baptême dans la nuit pascale.
Alors, et par contre, les autres, s'occupe aussi des confirmants.
Voilà, et il s'occupe aussi de ce qu'on appellera plus généralement les recommençants, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés mais qui n'ont pas toujours été très catéchisés, qui n'ont pas eu l'occasion de faire leur confirmation, et parfois même leur première communion. Alors ceux-là aussi, on invite, le catéchuménat diocésain invite les communautés chrétiennes à les accompagner et à leur permettre un temps de catéchèse, d'initiation, pour pouvoir se préparer à la confirmation qui a lieu là, plutôt à la Pentecôte.
Et là, c'est vous qui les confirmez.
Et c'est moi qui les confirme, oui.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port. Monseigneur Hayé, ce mois de mars, vous allez lancer la nouvelle campagne du denier de l'Église 2015. Alors, y a-t-il une campagne particulière cette année? On se souvient que vous aviez innové il y a quelque temps. Est-ce que ce sera une campagne classique ou est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année?
Alors écoutez, il y aura sans doute des nouveautés comme chaque année, mais il n'y aura peut-être pas des nouveautés aussi originales que celles que l'agence de communication m'avait suggérées il y a quelques années, et qui avaient fait couler tant d'encre et couler tant de salive. Moi, ce qui m'intéresse de noter aujourd'hui, pour rassurer aussi nos auditeurs, qui s'intéressent aussi à cette collecte du nez de l'Église, qui, je le rappelle, est le revenu principal du diocèse pour le traitement des prêtres et de nos salariés laïcs, de l'ensemble de l'association diocésaine, c'est-à-dire qui comprend la curie et les services et les paroisses, bien entendu. La chose intéressante à signaler, c'est quand même que dans cette période de crise économique, où dans la plupart des diocèses, on connaît quand même une chute régulière du denier de l'Église, et nous ne manquions pas non plus à cette décroissance depuis 2-3 ans. Cette année, il y a une petite embellie. Et donc le denier de l'Église non seulement s'est stabilisé, mais a un petit peu augmenté. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que si le don moyen a un peu baissé, et on peut le mettre en effet sur le compte de la crise économique quand même, les gens ont moins d'argent dans leur porte-monnaie, le nombre de donateurs a grandi. Donc il y a plus de donateurs en 2014 qu'il n'y en avait en 2013. Et de fait, il y a une sensible hausse du denier de l'Église. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et je veux remercier évidemment les donateurs et les encourager à transformer l'essai et à continuer à être généreux pour leur Église. Car encore une fois, l'Église ne vit que de la générosité des fidèles, que de leurs dons. Il ne bénéficie d'aucune subvention, ni du Vatican, comme certains le croient encore, c'est étonnant, ni de l'État, en régime de séparation des Églises et de l'État.
Au contraire, c'est nous qui donnons quelque chose au
Vatican. Et c'est même les diocèses qui sont un peu ponctionnés. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un impôt au niveau de la Conférence des évêques de France. Ça veut dire que chaque diocèse est appelé à donner une contribution à la Conférence des évêques de France pour les services nationaux. Et pour la maison de Breteuil, je crois que c'est à la hauteur quand même de 100 000 euros pour le diocèse de Bayonne, qui est donné chaque année à la conférence, au siège de la Conférence des évêques de France. Et puis il y a des quêtes régulièrement faites, qu'on appelle parmi les quêtes tempérées, qui sont en direction de l'Église universelle, pour permettre au Saint-Siège, non seulement d'équilibrer ses budgets, mais surtout d'aider les églises les plus pauvres.
Alors, une des ressources aussi importantes du diocèse, ce sont bien sûr les legs, donc tout ce qui est immobilier. Le diocèse possède des biens qu'il entretient, qu'il tente de faire fructifier. Alors, il y a parfois des ambiguïtés entre ce qui appartient au diocèse, ce qui appartient aux paroissiens. Alors, je pense bien sûr au cas d'Ossès, où il y a en ce moment une polémique sur un bâtiment. Comment est-ce qu'on peut gérer cette transition? Finalement, auparavant, l'église et le village étaient imbriqués, c'est-à-dire tout le monde, comme vous le disiez en début d'émission, tout le monde était catholique, tout le monde allait au catéchisme, c'était imbriqué. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent le diocèse souhaite faire main basse sur les bâtiments, le diocèse rachèterait des bâtiments qui ne lui reviendraient pas?
Alors ça, c'est une vue de l'esprit, et je dirais même c'est de l'intox. À propos de ce problème d'Ossès, puisque vous l'évoquez, que je vois étalé dans la presse aujourd'hui, pour moi c'est une confirmation de plus sur la médiocrité ou l'incompétence de cette presse locale, à moins qu'ils aient trouvé un nouvel angle d'attaque pour déstabiliser l'évêque que je suis. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'ils se renseignent une bonne fois. On a l'impression, quand on lit la presse, que la maison d'Ossès, qui appartient de fait à une association paroissiale, qui est de type 1901, donc dans lequel le diocèse n'a civilement rien à faire, mais on se rappelle quand même que ce sont des biens qui appartiennent à l'Église et qui, en raison de la loi de séparation des Églises et de l'État, ont été versés au compte d'associations paroissiales qui gèrent ces biens d'Église pour la paroisse. C'est une maison qui a été donnée pour les activités paroissiales. Que la paroisse ait accueilli, et c'est très bien, des activités qui concernent plus directement le village ou des associations culturelles du village, c'est une chose. Mais la propriété est celle d'une association de 1901 qui a tout à fait conscience d'avoir reçu un bien d'église à gérer pour les biens de la paroisse. Ensuite, quand on dit qu'il y a une adhérente de l'association Garbi d'Ossès qui d'ailleurs bénéficie à titre gracieux de cette maison où elle a installé pour des raisons professionnelles son cabinet d'infirmière, et contre l'évêché, je rêve. C'est en fait l'association, loi 1901, propriétaire de cette maison, qui est en bisbille jusqu'à, et c'est déplorable, se trouver en procès avec une membre de l'association qui s'oppose aux décisions démocratiques qui ont été prises par l'Assemblée Générale de cette association, qui était de désirer l'apport de ce bien à l'association diocésaine. Je rappelle aussi que l'association diocésaine, ça n'est pas l'évêché, et donc l'évêque, parce que quand on dit évêché, on pense évêque. L'association diocésaine, qui est membre de l'association diocésaine? Tous les curés de paroisse. Ça veut dire que le curé de la paroisse d'Ossès, c'est l'association diocésaine dans son territoire. Donc l'apport était simplement pour permettre à l'association diocésaine, éventuellement, mais sous réserve qu'elle accepte cet apport, était éventuellement permettre à l'association diocésaine de renflouer, d'aider à la restauration de cette maison, parce que l'association n'a pas le premier euro pour le faire, afin d'être au service des activités paroissiales, quitte à permettre aussi aux villageois qui en avaient l'habitude d'organiser telle ou telle rencontre au sein de cette maison. Voyez, donc on a monté en épingle toute une affaire avec une méconnaissance du dossier qui est attristante, mais encore une fois pour moi, c'est la preuve ou la confirmation de du manque de professionnalisme de cette presse locale.
Restons au Pays Basque, Monseigneur Marcaillé, nous parlions d'Ossès, nous allons parler un peu de la pastorale en basque. Du 19 au 29 mars, il y aura la Corrika, c'est une course relais en faveur de la langue basque qui va démarrer cette année à Urepel et qui arrivera le 29 mars à Bilbao. Il faut savoir aussi qu'il y a à peu près 30% de la population qui parle le basque ici dans le Pays Basque de France, 20% qui le parlent couramment et 10% qui le comprennent et qui sont en train d'apprendre.
Il faut savoir aussi, Monseigneur Ayet, par exemple.
Il faut savoir aussi que dans l'enseignement catholique, il y a 3065 élèves dans 48 établissements catholiques qui pratiquent le bilinguisme. Il faut savoir aussi qu'il y a 3500 élèves dans les Ikastola. Tout ça pour dire que la langue basque, c'est une réalité ici. Alors vous, comment vous vous positionnez par rapport à la langue? On sait que vous célébrez dans les paroisses du Pays Basque intérieur en langue basque.
Bien sûr, c'est tout à fait fréquent maintenant que je célèbre la messe en basque. Pas forcément tout le temps, parce que les curés ne me demandent pas de la célébrer in extenso en basque, même si ça m'arrive aussi, pour des fêtes un peu particulières, sur la messe des chorales, que ce soit les fêtes comme de Saint-Michel Géricault à Ibar, bon, etc. Mais ceci dit, pour moi c'est important, c'est une, comme vous dites, c'est la langue maternelle de beaucoup de fidèles dans notre diocèse, qui connaît un certain renouveau auprès des jeunes générations, et puis surtout, comme je m'en accorde avec beaucoup d'autres basques de notre diocèse, la langue est parlée dans des associations culturelles qui ne sont plus toujours en lien avec l'Église, parfois même où souffle un vent un peu anticlérical. Et donc pour moi c'est très important que la langue basque soit perdure au sein dans nos rangs, de manière à ce qu'on puisse annoncer l'Évangile, entrer en contact avec tous ces milieux qui défendent la culture basque, la langue basque, et qui ne sont plus toujours complètement en lien avec l'Église, et parfois même en opposition, sans savoir toujours pourquoi. C'est la raison pour laquelle je tiens à ce qu'au séminaire, ceux qui le peuvent et qui le veulent puissent apprendre le basque. Un lundi sur deux, la messe est en basque au séminaire pour tous les séminaristes, même ceux qui ne sont pas basques, qui pourraient être béarnais ou même vietnamiens. Certains séminaristes commencent à s'y atteler avec cœur. Il y a même un séminariste du diocèse qui assure la catéchèse en basque à Saint-André un mercredi tous les 15 jours. Hein. Donc c'est dire, pour moi, l'importance. J'ai reçu récemment une personne d'Asquin, me semble-t-il, qui a pris l'initiative de publier un CD de chants de Thésée traduits en basque, avec le concours d'ailleurs des moines de Belloc et de jeunes musiciens qui ne sont pas nécessairement chrétiens. C'est une excellente initiative pour permettre à des milieux basques qui ne sont plus en lien avec l'Église, ben peut-être d'être touchés par cette musique qui est un moyen d'évangélisation. Donc je me réjouis de ce genre d'initiative et je les encourage.
Alors un paroissien de Sarre a écrit au vicaire général, à l'abbé Landard, concernant la place du basque à la cathédrale, puisqu'il y avait des panneaux qui présentaient donc les richesses de notre cathédrale de Bayonne, mais le basque n'y figurait pas. Alors, est-ce que vous en avez parlé avec le vicaire général, et comment les choses vont-elles évoluer?
Oui, alors je crois que ce monsieur s'est emballé un peu. De fait, le vicaire général l'a rencontré. Ils ont parlé de manière très très paisible pendant 2h30, je crois, et ils ont convenu en effet qu'il n'y avait aucune opposition à ce que la cathédrale, qui est évidemment la cathédrale de l'ensemble du diocèse, de Bayonne, Lescar et Oloron, donc qui n'appartient pas seulement au Pays basque, même si elle se trouve à Bayonne, qui est davantage basque, même si je rappelle que Bayonne est fait d'abord partie de terre gasconne, et il reste que le basque a sa place. Il y a souvent des chorales basques qui se produisent à la cathédrale, et je crois qu'en effet, c'est une très bonne chose que la langue puisse aussi, toute chose égale d'ailleurs, comme dit le Concile Vatican II de manière prudente et exhaustive, puisse avoir sa place à la cathédrale.
Y a-t-il des projets dans le cadre notamment de l'Observatoire de la Mission par rapport à la pastorale vis-à-vis notamment des élèves qui sont scolarisés par exemple dans les Ekachtola? Vrai qu'il y a vraiment quand même un effort peut-être d'évangélisation à faire dans cette direction.
Tout à fait, c'est une question tout à fait récurrente dont j'ai chargé le vicaire épiscopal du Pays Basque intérieur, donc l'abbé Joachim Jauregui, qui est déjà en lien avec l'association Fedea Eta Cultura, et qui doit organiser très prochainement une nouvelle rencontre avec moi pour voir de quelle manière on peut être un peu plus proactif dans ce domaine.
Est-ce que vous allez courir pour la langue basque avec la Corica cette fin de mois de mars?
Alors malheureusement, je crois pas. Non, je pourrais pas. Je manque un peu d'entraînement là.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, pour parler de deux événements importants pour notre diocèse. Donc bien sûr la béatification du Père Sestac, mais aussi une canonisation, puisque c'est officiel, la bienheureuse Mariam Bawardi, donc sœur Marie de Jésus crucifié, qui a été présente au Carmel de Pau pendant plusieurs années, va être canonisée. Ce sera le 17 mai à Rome. Un événement important, notamment pour les bétaramites de notre diocèse.
Alors donc, oui, en effet, comme vous le savez, il y a un lien comme avec le diocèse, même si c'est pas le diocèse qui est postulateur de cette cause. Sœur Mariam de Jésus crucifié, il se trouve qu'elle a en effet passé ses années de noviciat au Carmel de Pau, hein, qui a fermé dans les années 50 ou 60, je crois. Et donc, elle y a bénéficié de grâces mystiques assez extraordinaires. Elle lévitait dans les arbres du jardin. La prieure est obligée de lui commander de redescendre de son arbre, parce que elle s'exécutait avec une grande obéissance. Mais bon, voilà, elle avait des extases mystiques. Donc c'est une authentique mystique. Elle a eu d'ailleurs des révélations de fait particulières. Elle a vu de manière très précise, dans une vision intérieure, le plan du Carmel de Bethléem ou de Nazareth, maintenant ça m'échappe, puisqu'elle est palestinienne d'origine, hein, et les Carmels ont été construits selon les plans qu'elle avait reçus par vision. Les Bétharmites sont liés parce qu'ils sont traditionnellement les aumôniers de ces Carmels de Palestine et de Terre Sainte, et donc quand le Carmel a fermé, il était tout à fait logique que le Carmel de Pau soit remis entre les mains des Bétharmites, qui en sont devenus propriétaires, et qui étaient chargés, c'était la contrepartie, d'assurer la promotion, si je puis dire, de la vénération due à la bienheureuse Mariam de Jésus crucifié, dont ils avaient en garde la relique du cœur, qui malheureusement a été volée il y a un certain nombre d'années, et donc a été perdue, sans doute parce qu'elle n'était pas suffisamment protégée. Enfin, en tout cas, ils sont fidèles à honorer la mémoire de la bienheureuse et bientôt sainte Mariam de Jésus crucifié au Carmel de Pau.
Et donc c'est à la Maison Saint-Michel à Pau que se trouve le lieu où elle a eu des apparitions.
Voilà. Donc c'est un lieu source dont ils veulent faire, les Bétharmites, un centre spirituel pour Pau. D'ailleurs, il y a une petite communauté aussi de carmélites apostoliques indiennes qui les aide dans cette démarche pastorale. Et donc c'est évident que nous sommes dans la joie avec eux, et tout le diocèse aussi, pour la canonisation de cette sainte un peu hors du commun. Et qui peut aussi nous aider à mieux entretenir des relations entre notre Église et les Églises d'Orient, hein, où les chrétiens d'Orient, comme nous l'avons déjà dit dans le cadre de cette émission, sont tellement menacés dans leur existence même.
Alors, Mgr Hayé, pendant ce carême, beaucoup de paroisses organisent des rencontres autour du vénérable Père Sestac, qui sera donc béatifié le 31 mai. Où en sont les préparatifs de cette béatification qui aura lieu à Bayonne?
Alors, il y a un petit comité de pilotage qui s'est constitué entre les servantes de Marie et le diocèse, sous la direction de notre vicaire général, hein, l'abbé Lionel Landard, à la fois pour la célébration de la béatification qui aura lieu donc le 31 mai à la cathédrale, comme vous venez de le souligner, le rappeler. Donc on en est en lien avec le service de pastoral liturgique sacramentel aussi pour l'établissement de la cérémonie. Et puis il y a une quantité de petites choses qui se font chez les Bétharmites, beaucoup chez les servantes de Marie, beaucoup d'accueil de groupes qui commence à se faire. Elle sillonne aussi pas mal les paroisses du diocèse à l'invitation des curés pour évoquer la figure du Père Sestac. Nous avons organisé pas mal de rassemblements diocésains, que ce soit les appels décisifs, la journée de la vie consacrée au refuge, hein, pour honorer ce lieu source aussi pour notre diocèse. Et moi-même, je viens de mettre la dernière main à la lettre pastorale que j'adresse à tous les diocésains en vue de la béatification, où je veux évidemment évoquer ce que le Père Sestac a encore à nous dire aujourd'hui, hein, d'une manière assez diversifiée, puisque c'est un bienheureux pour notre diocèse. Comme vous le savez, le pape Benoît XVI a rétabli l'association de béatification dans les diocèses pour souligner que la béatification ouvre le culte local, hein, aux saints, aux bienheureux. Il nous rappelle aussi notre vocation à la sainteté, qui est une des premières urgences pastorales dans la vie de l'Église. C'est un prêtre donc qui va nous permettre de réfléchir aussi à la question parfois épineuse et taboue des vocations sacerdotales dans le diocèse. Il a quelque chose aussi à dire aux prêtres d'aujourd'hui, pour leur ministère et pour leur vie. Il a fondé une congrégation de religieuses actives avec en leur sein une communauté monastique contemplative. Donc il a quelque chose à nous dire aussi sur la vie consacrée, particulièrement dans cette année de la vie consacrée, sur le service des pauvres, car il a été vraiment l'ami des pauvres, hein, dans son ministère de prêtre vicaire de la cathédrale pendant 20 ans. Il a quelque chose aussi à nous dire sur le sens ecclésial. J'étais très frappé en lisant beaucoup de textes et en lisant la biographie du père Sestac sur ce sens ecclésial qui n'était entamé par rien. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est important de nous le redire en cette période où nous connaissons parfois des tensions, des divisions, des critiques les uns sur les autres. Et enfin, il a été guidé par la Vierge Marie, dont il a reçu cette fameuse maxime à Buglose, « Ne me demande que mon esprit ». Donc il va nous renforcer aussi dans notre dévotion mariale.
En un mot, c'est un saint.
En un mot, c'est un saint. Et c'est vrai que quand on lit sa vie, outre l'œuvre gigantesque qu'il a fondée avec les servantes de Marie, il a une vie exemplaire. C'est un prêtre qui a été complètement donné au Seigneur et à la Vierge Marie, et complètement donné aux autres. Et ça, c'est la marque de la sainteté.
On espère très vite alors la canonisation à Rome. Alors on va terminer cette émission avec la fin du carême et puis peut-être nous expliquer la messe chrismale, en quoi elle consiste exactement et qui a été cette année déplacée au mercredi. Donc elle aura lieu mercredi 1er avril à l'Escar. Mercredi saint, à l'Escar, à 18h. Pourquoi ce changement et puis qu'est-ce que cela signifie, cette messe chrismale?
Alors vous savez que liturgiquement, la messe chrismale a lieu normalement le jeudi saint au matin, pour pouvoir entrer dans le Triduum Pascal le jeudi soir avec la messe In Chana Domini. C'est comme ça que ça se passe à Rome. Le pape va célébrer la messe chrismale avec le clergé de Rome jeudi saint au matin à la basilique Saint-Pierre. Et le soir, il célébrera, je pense au Latran, la messe In Chana Domini, donc qui ouvre le Triduum Pascal. La messe chrismale est la messe traditionnellement où l'évêque consacre le Saint-Crème pour l'année qui vient. Et bénit l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Donc c'est un moment assez privilégié parce que le peuple de Dieu en son entier, qui est un peuple de prophètes, un peuple de prêtres, un peuple de rois, se rassemble autour de l'évêque et du presbytérium, qui sera invité d'ailleurs au cours de cette messe chrismale à rénover les promesses de son ordination sacerdotale. Donc c'est un grand moment de la vie du diocèse, un grand moment de rassemblement de l'Église communion dans la diversité de ses membres, de ses charismes, de ses ministères. Et donc c'est toujours un lieu de grande joie. Alors comme c'est le jeudi saint normalement liturgiquement, on a la possibilité de la célébrer un autre jour de la semaine sainte le plus proche possible du jeudi saint. Et on s'est dit, ben, on va essayer de le faire le mercredi. Comme ça, ce sera juste avant d'entrer dans le Triduum Pascal.
Donc tous les prêtres, bien sûr, sont invités, mais aussi les laïcs, finalement.
Et les fidèles de manière très large. Oui, je crois que c'est très important que tout le peuple oint de l'onction de l'Esprit Saint par le baptême, la confirmation ou le sacrement de l'ordre puisse participer dans un grand élan de communion à cette messe chrismale.
Donc rendez-vous le 1er avril, le mercredi saint, à l'Escar à 18h. Et cette messe sera retransmise également sur Radio La Pourdie.
Et ça n'est pas un poisson d'avril.
Ce sera le mot de la fin, Monseigneur Marc Caillé. Merci à vous, merci à Violaine Ricourt-Dumas et bonne marche vers Pâques à tous les auditeurs de Présence et de Radio La Pourdie.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Merci à Mgr Marc Caillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Retrouvez toutes les informations diocésaines sur le site
www.diocese-bayonne.org.